première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Et à une fois, j'entends. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse. Donc.
Vous allez où? 11e.
Ces lieux nous parlent.
Est-ce que je vous ferai une lecture de la poire à l'aigre doux? Comme ça, on aurait la base.
Pays, paysage, paysan.
300 ml de vinaigre de cidre. Ou vinaigre de vin blanc.
Nous sommes près de Mété, à Stave, au fourneau de veau.
Ou vinaigre de vin rouge, si on veut avoir un côté coloré.
Au lieu dit l'horticulture. Nous sommes chez Marie-Albert.
Nous reprenons. Poire à l'aigre doux. Point. C'est le titre. Souligner deux fois et on respecte bien la marge, s'il vous plaît.
À la ligne. Tu nous fais des liaisons?
Certainement. 300 ml de vinaigre. 400 g de sucre cristallisé. Et 1 kg de petites poires fermes. Donc on va appeler ça plutôt poire à cuire. Je ne vais pas mettre la proportion dans les épices, puisqu'on peut le faire autrement. Donc, dans un faitout, on fait chauffer à feu doux le vinaigre plus le sucre.
Et nous allons entrer en permaculture avec des travaux d'automne et conserve à la pluie.
On amène ça à ébullition. Évidemment, comme il y a du sucre, il faut remuer pour ne pas que ça colle au fond. Mais bon, je vous le fais dans l'abrégé. Hein. Donc vinaigre plus sucre et on amène ça doucement à ébullition. Le but étant aussi que le sucre soit fondu.
On ne met pas encore les petites poires?
Non. Okay. D'abord, on baisse le feu et on laisse frémir doucement. Et pendant que tout ça se fait, on pèle les poires. Si on a la chance d'avoir des petites poires, alors ça c'est très chouette, on les fait entières et on garde juste la queue. Parce que la queue, ça permet de pouvoir prendre les poires dans le bocal, donc ça c'est magnifique.
C'est vraiment le truc des gourmands, ça.
Maintenant, comme les poires sont un peu abîmées, on va pas s'en tenir à ça. On va ouvrir les poires, on va les couper en quatre ou peut-être plus. Et forcément, là, on enlève la queue. Ils mettent laisser frémir doucement. Et pendant que ça frémit, voilà, tu fais la préparation.
Nous sommes un lundi. Le jour où Marie-Albert enseigne. Nous sommes en septembre 2015.
Quand on a les morceaux, on les met dans le vinaigre chaud. Et on laisse frémir jusqu'à ce que les poires soient tendres sans être trop molles. Donc, je dirais qu'on va laisser frémir jusqu'à la consistance souhaitée. On prend les poires qu'on va mettre dans des bocaux. L'idéal, c'est que les bocaux soient déjà chauds. Et puis après, on ramène le vinaigre à ébullition et on remplit les pots avec le liquide. Ici, on va remplir avec le vinaigre chaud. Donc, on peut fermer. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de retourner le pot après pour de nouveau que l'air puisse passer à travers, ce qui ne précise pas ici. Mais je trouve que ça ne demande rien comme infrastructure supplémentaire et ça n'altère rien du tout que du côté, ça sécurise. Et si on veut, on pourrait penser aussi à stériliser. On pourrait penser à stériliser de nouveau une vingtaine de minutes. Et donc, de nouveau, on est dans quelque chose de plus sécuritaire. Maintenant, vous pouvez aussi observer les conserves et de voir si à un moment ça commence à pétiller, c'est de recuire. Pour être dans le plus sécuritaire, on peut de nouveau revider les pots. Donc à ce moment-là, on vide le vinaigre dans une casserole. Quand il bout, on replonge de nouveau les poires dedans. Et puis de nouveau, on refait le même processus. Donc ça veut dire qu'on recuit une deuxième fois. Et ça, on le fait très souvent dans des fruits au vinaigre. On recuit. Et en fait, c'est comme si on reconcentrait de nouveau le jus.
Nous sommes en compagnie de Marie-Albert, Dominique Demes, Céline Robert, Catherine Tellier et Caroline de Pascal.
Tu stérilises. Donc forcément, tu enlèves des éléments nutritifs. Et donc, on a moins, mais comme je disais, le plaisir nourrit aussi. Et donc, ça fait partie d'un assemblage. Et oui, on ne se nourrirait que de poire au vinaigre. Je ne suis pas sûre que ça serait vraiment très bien.
Carencé.
Et mais puis, bon, ben, le vinaigre n'est pas non plus l'idéal comme nourriture. Tu vois, un petit peu, c'est bien.
Permaculture en travaux d'automne avec conserve à l'appui par Thierry Genicot.
Donc, on va pouvoir commencer à déplucher les poires. Et là, c'est vrai que souvent, il faut quand même du poignet parce qu'il y a souvent des petits cailloux comme ça dans les poires. Et donc ça, c'est intéressant parfois de pouvoir les enlever aussi, si on sent un petit truc dur, de pouvoir l'enlever. C'est pas toujours agréable sous la dent. Et l'idée, c'est que vous puissiez au moins avoir chacune un pot. Donc d'où l'idée de mettre la date dessus, les ingrédients que vous avez mis aussi dessus. Voilà. Et donc on va opter pour l'idée du pot à confiture, du beau pot à confiture. Ça va ? Il y a des poires de table et des poires plus de cuisson. Celle que je propose ici, c'est une poire, c'est la Saint-Rémy. Et donc quand tu croques dedans, tu sens bien que c'est quelque chose de ferme et vraiment très juteux. Maintenant, si tu prends une autre poire qui est une poire de table, le problème c'est que quand tu vas être dans la cuisson, tu vas être vite dans quelque chose qui va fondre.
Oui, c'est ça.
C'est plus à ce niveau-là que ça pose un problème. Et alors la maturité, ben, chaque poire a sa maturité aussi. C'est pas évident.
Des conférences pas trop mûres, c'est pas encore.
Et alors les poires, c'est intéressant de les cueillir avant maturité, parce qu'une poire, ça ne se conserve pas. D'abord, une poire se récolte sur l'arbre. C'est pour ça qu'il y a, comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'arbres qui sont palissés, ce sont des poiriers qui sont palissés. Parce que la poire ne se récolte pas au sol, et c'est vraiment un fruit très très fragile. Pour en avoir plus longtemps, l'idéal, c'est de les cueillir avant maturité. Et ça va maturer de toute façon à l'intérieur. Et on le voit bien quand on achète des poires sur un marché, les conférences, elles sont fermes, elles sont dures, on croque dedans, on se dit « Oh, c'est encore vraiment très dur ». Et quelques jours après, mais ça va super vite, quelques jours après, on a quelque chose qui est très fondant. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est difficile à garder, parce que ça demande vraiment des pièces très très fraîches, quoi, de n'avoir que quelques degrés pour les garder. Inge, tu sais ce que tu veux comme condimentaire?
Non, pas encore.
L'agastache, romarin.
L'agastache, c'est une plante florale. Donc on utilise tant la fleur que les feuilles et la tige. Et il y a différentes sortes d'agastache. Et donc on part de l'anisé. Et puis il y en a qui sont plutôt mentholés. Et puis, il y en a qui ont un magnifique équilibre entre l'anis, la menthe et le citron en plus.
Ah oui, celle-là. Du géranium rosa.
Ah, et du géranium rosa aussi.
Oui, le géranium rosa.
Voilà.
Oui, voilà.
Le géranium rosa. Tu peux prendre aussi un petit morceau de poire et croquer dans le porophyllum, voir comment ça pourrait peut-être se mettre. Tu sais, en même temps, c'est intéressant, la poire au vinaigre, pour consommer accompagné d'autres préparations.
Gibier.
Oui, du gibier, par exemple. Je mets très peu ça dans l'assiette, parce que je mange plutôt ça en gourmandise. et de me dire, tu vois, qu'on pourrait être dans le côté plus salé. Mmh. Et donc, à ce moment-là, peut-être même de rajouter du piment dans tes poires.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, d'avoir un truc qui soit comme ça. Et à ce moment-là, est-ce que même un petit peu de... Tu vois, on mettrait du piment. Est-ce que ça ne serait pas intéressant aussi d'avoir un peu de poivron, tu vois, que le goût poivron vienne aussi avec le porophyllum. Et bien alors, je vais aller vous chercher...
Marie-Albert.
Les personnes à qui vous parlez, qui sont-elles ?
Ce sont des personnes qui ont... c'est difficile d'expliquer. Elles ont un projet de découvrir toute cette diversité dans les plantes comestibles, de savoir comment on peut les cultiver, comment on peut les cuisiner, parce que leur projet, c'est soit de les cultiver elles-mêmes par après, soit de repasser le message avec des animations pour enfants. Ça reste dans ce domaine-là, en tout cas. C'est dans l'idée soit de cultiver pour revendre, soit de transmettre au travers d'animations. Et c'est tout âge. Il y a des personnes qui sont très jeunes et d'autres qui sont plus âgées. Mais c'est ça qui est très dynamique, justement, de voir qu'il y a des projets qui continuent, même à travers les âges. Et puis, quand on se retrouve tous ensemble, ça fait un bel échange d'informations aussi.
Qui est Marie-Albert à vos yeux ?
Une cultivatrice extraordinaire. Moi, je viens à cette pépinière depuis 12-13 ans facilement. J'ai découvert, pas redécouvert, découvert des légumes dont j'ignorais totalement l'existence. Et donc, quand j'ai entendu parler de sa formation ici, j'ai foncé parce que je me suis dit, il n'y a personne qui connaît les plantes mieux qu'elle, quoi. C'est extraordinaire. Elle connaît tous les noms, elle sait à quoi ça sert, ce qu'il y a dedans. Fabuleux.
Là, vous coupez ?
Là, j'ai coupé un peu d'agastache. Il y a des conserves qui sont très simples. Et donc, ça permet d'avoir l'esprit libre pour découvrir aussi d'autres condiments. Et la gamme est tellement vaste. Et de faire des essais aussi, parce qu'il y a des choses, on ne connaît pas trop, on ne sait pas comment ça va réagir. Mais voilà, c'est plus stimulant quand on est à plusieurs de faire des essais que de se retrouver seul. Donc j'ai de l'agastache, je vais chercher du porophyllum.
On apprend en fait à conserver les légumes de toutes les manières anciennes. Donc au sel, à l'huile, au vinaigre, lacto-fermenté, puis stérilisé, au sucre aussi, enfin... Toutes les manières de conserver les choses que connaissaient si bien nos grands-mères et puis nos mères n'ont pas utilisé, donc nous on ne sait plus rien.
Et le reste se trouve dans la sève.
Vous avez parlé de lactofermentation.
Oui.
Alors pour qui nous écoute, courte définition.
Eh bien la plus courte c'est la choucroute. La choucroute, c'est de la lactofermentation. Donc ça va être un légume qui va être fermenté, mais une fermentation qui est maîtrisée. Et le fait de cette fermentation, ça permet d'augmenter les éléments nutritifs et ça permet aussi de faciliter la digestion. Et c'est super intéressant parce que ça fait des modes de conservation qui sont très peu énergivores puisqu'on ne doit pas cuire. Il faut juste un matériel de stockage, des gros pots, des choses comme ça.
À mon avis, ma génération, elle surgèle. Elle surgèle tout. Et c'est vrai que quand on a un potager, mais à profusion comme ici, c'est magnifique aussi d'arriver à conserver les goûts, de les mélanger. Mais tout ça, c'est un réapprentissage. Hein, parce que c'est pas qu'on a oublié, on ne sait pas. Et qu'il faut quand même un savoir-faire précis. si on ne veut pas avoir des bocaux qui explosent, qui fermentent ou qui moisissent, ça peut être dangereux aussi.
Toute cette diversité, à cette saison-ci, comme on est au mois de septembre, à cette saison, on la découvre au travers des conserves. Là, je prends aussi un peu de verveine citron, parce que ce parfum citronné, quand même, aussi, ça a toujours un petit effet magique. On est dedans, hein. Mais même quand on est un peu plus loin, l'odeur s'en va, et puis tout à coup, hop, on perçoit cette odeur, mais c'est... Je crois que ça fait sourire tout le monde, un parfum de plaisir.
Le but de votre présence ici, à l'horticulture, c'est d'apprendre, mais aussi de transmettre ?
Oui, bien sûr. Moi, j'habite en ville, à Bruxelles, et je donne des ateliers pour des enfants citadins de cuisine. Et je leur fais faire aussi des livres de recettes et tout ça. Je suis effarée, ils ne mangent que du sucre. Et c'est dur de leur faire découvrir des nouveaux goûts. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est simplement qu'ils aient un contact avec la nature. Je leur demande par exemple d'aller chercher un poireau dans le potager, ils reviennent avec un iris. Donc ils savent plus ou moins que ça a des longues tiges. Mais il y en a un, je lui demande d'aller chercher quelques radis, et puis il revient, il me dit je ne les trouve pas. Parce qu'en fait, il n'y a que, je dirais, le dessus du radis qui dépasse. Et en fait, lui... Il voit un radis, il voit une botte, quoi. Donc, je trouve que c'est quand même important de... Et alors ici, évidemment, d'apprendre à partir de toutes ces denrées, comment les conserver, comment les transformer en pâte de fruits, tout ça, ben c'est un plus, hein.
Et ça, c'est une tagette. Tagette lémonie. C'est un arbuste. Contrairement à beaucoup de tagettes qu'on cultive comme plante annuelle pour la fleur, celle-ci, c'est un arbuste. Et c'est très très parfumé, mais à la radio il n'y a pas encore le parfum. Mais ça évoque le fruit de la passion.
Oui, de transmettre, mais d'apprendre soi-même des choses qui ont été totalement oubliées et qui vont peut-être donner à des enfants ou à des adultes. Moi j'ai le projet aussi de travailler avec des migrants, de leur faire découvrir des saveurs un peu moins... Comment dire, plus subtil que des ketchup et des grenadines et des choses comme ça.
C'est une richesse, on se rend compte que, mais on a tout ça, on se rend compte qu'on est dans l'opulence. On est nourri par les odeurs, par la vue, par le goût, et on a tout ça à portée de main. Oui, d'où l'idée d'en prendre conscience parce que c'est encore plus réjouissant.
Et c'est ce que vous faites dans cet enseignement ?
Oui, c'est ça. C'est stimulant pour tout le monde, c'est stimulant à la fois pour... ceux à qui je montre, et c'est stimulant pour moi aussi parce que j'ai toujours envie de découvrir plus, et donc ça m'incite à explorer plus, voir comment est-ce qu'on peut vraiment tirer parti d'un parfum, d'un goût, d'une texture, voilà, c'est tout ça. Que ça soit dans le sauvage, dans le cultivé, dans l'exotique.
Mais quel est votre métier au juste ?
Eh bien, je suis pépiniériste. C'est une pépinière de plantes comestibles. Depuis cette année, on a démarré juste dans le comestible.
Surtout, je trouve, pour ouvrir le goût, pour diversifier, comme on nous met comme ça des plantes sur la table, elles ont des odeurs, elles ont des textures, elles ont bien sûr des goûts, et quand on va les cuire, elles vont parfois à perdre ce goût, donc c'est tout passe par l'expérimentation, et c'est ce qui est magnifique ici, c'est qu'on fait les deux. À la fois, on réfléchit, on partage des savoirs, enfin, le peu de savoir qu'on a, c'est surtout Marie qui nous apprend, mais on peut passer à l'acte, et quand on passe à l'acte, on se dit, ah, mais ça, j'avais pas aperçu, enfin, c'est important d'aller jusqu'à tel niveau, et c'est vrai qu'on peut garder des couvercles 2 ans, mais pas plus, parce que sinon, il va y avoir des fermentations. Ça, c'est du savoir-faire, hein. Ça ne s'apprend pas dans un livre. Dominique de Metz.
Plusieurs maisons, hein, qui sont alignées, plusieurs habitants qui ont en face des jardins potagers, puis il y a la maison principale, va-t-on dire, avec plus bas des serres, plusieurs serres, jardin, jardin potager, en bas et en haut. Hein.
Oui, oui.
C'est un lieu d'expérimentation, de formation ?
Pas d'expérimentation. D'expérimentation en matière de formation, peut-être, mais là-bas, on cultive depuis pas mal d'années déjà. Il y a une très bonne expérience.
La grande diversité de toutes les plantes qui sont là, et les fleurs qui sont soit condimentaires, soit purement esthétiques. Et quand on fouille un peu et qu'on se promène avec quelqu'un qui s'y connaît, on se rend compte qu'il y a énormément de choses comestibles qui peuvent apporter des choses différentes, soit pour la conservation, soit pour la santé, soit pour la nature elle-même. C'est très, 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 très riche.
Et c'est la raison de votre présence ici ?
Oui. Clairement. Oui, je suis sur un projet en permaculture, donc c'est préserver la nature tout en trouvant les moyens de se nourrir et de profiter de tout ce que la nature peut nous offrir sans la détruire. Et donc ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que je recherche, oui.
Ce projet, vous pouvez en dire un peu plus ?
Alors ça s'appelle l'ASBL Le Pachy du Tri.
Mieux découvrir toute cette diversité dans les plantes, c'est dans les légumes. C'est dans les aromatiques et c'est dans les fleurs. On reste dans les plantes herbacées, donc ça veut dire dans les plantes annuelles ou dans les plantes vivaces, et on n'en est pas encore aux arbustes. Ça sera la suite pour quelqu'un d'autre peut-être.
Le Pachy du Tri. Donc ça se trouve à Mont-sur-Marchienne, c'est dans la rue Le Pachy du Tri. C'est le lieu Le Pachy du Tri. Et donc on a 65 hectares de terrain et on vit en communauté familiale. On a déjà commencé à développer une forêt comestible, donc des arbres et des arbustes essentiellement comestibles, dans lesquels on introduit aussi des arbres plus pour le bois de chauffage ou du bois de construction. Et alors ici on va développer un jardin potager. Donc tout ça c'est uniquement pour subvenir à nos propres besoins, mais on voudrait aussi y faire des animations et au départ des chantiers participatifs pour pouvoir construire des bâtiments pour accueillir des gens, des préaux, un endroit pour pouvoir stocker les récoltes, un abri de jardin, des toilettes sèches, un centre de compostage. En fait, donc les 65 hectares de terrain dont nous disposons sont liés à 14 autres jardins. Et donc on propose aux voisins de reprendre leurs déchets verts que nous allons composter. Et donc on voudra accueillir des enfants, des écoles, des familles installées à l'extérieur, donc soit dans les écoles, soit chez des particuliers ou pour d'autres associations, installer des jardins potagers, des forêts comestibles, des bosquets, des mares, tout ce qui est lié à différents écosystèmes qui peuvent apporter à nous, à la nature.
Voilà, et ça c'est un pélargonium qui sent l'eau de rose. C'est pas un parfum d'eau de rose pure, on sent qu'il y a un autre parfum qui est en dessous. Mais voilà. Et là, on est vraiment dans l'exotisme parce que le pélargonium, ça ne tient pas l'hiver dehors, chez nous. Il faut les rentrer.
Pour l'instant, on est 8 en comptant les enfants à vivre sur le lieu. Il y a une dizaine d'autres personnes qui s'investissent petit à petit dans le projet. Et en comptant les voisins en plus, ça commence à faire certainement une bonne trentaine de personnes qui s'investissent de manière très irrégulière pour l'instant, mais qui sont intéressés par le projet et qui ont envie de pouvoir s'y investir plus quand l'infrastructure sera là, quoi. Pour l'instant, on est dans les travaux. Mais il y a déjà des projets qui se font à l'extérieur, notamment à l'école de Thirimont, où depuis l'année passée, on est sur une phase d'observation vraiment, donc comparer la terre des champs cultivés industriellement, comparer la terre de la forêt, voir à partir de la comparaison qui est vite faite, même pour un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, là c'est vivant, là c'est mort. Pourquoi là c'est vivant, pourquoi là c'est mort? Et voilà, on part vraiment de l'observation des enfants. Et puis on propose l'observation d'un jardin en permaculture où on essaye de recréer l'atmosphère de la forêt, les différentes strates de la forêt, analyse de la faune du sol, de la flore du sol, des champignons. Tout ce qui finalement fait partie de l'écosystème de la forêt, qui fait que la forêt est autonome, est productrice, plus encore qu'un champ cultivé, et peut nous apporter autant qu'un champ cultivé, si on y met la patte, sans détruire, quoi. Mais en fonctionnant dans l'esprit de l'écosystème qui est déjà présent, quoi. Et reproduire cet écosystème dans un jardin potager, une forêt comestible.
Est-ce que le mot d'autonomie vous parle ?
Bien sûr. Au niveau de la famille, c'est à ça qu'on voudrait arriver en développant le terrain. Maintenant, le reste, c'est partager ça, partager notre envie d'aller dans ce sens-là et de consommer différemment, de consommer des choses plus saines. Et oui, recherche d'autonomie, certainement.
C'est de les rentrer à l'abri du gel et donc qu'ils aient un minimum de 4-5 degrés. Mais avant, on rentrait pélargonium, ce sont les géraniums qu'on met aux fenêtres. Et avant, ce qu'on faisait, c'était de rentrer le géranium dans une chambre qui était froide, qui n'était pas bien chauffée. Et ça se tenait très bien. Donc ça peut perdre ses feuilles en hiver et puis ça va redémarrer.
Pour l'instant, on est basé que sur l'alimentation, mais ce sera aussi par la suite la gestion de l'eau, et c'est déjà dans nos réflexions actuelles, gestion de l'eau, gestion de l'énergie, tout ce que la nature peut nous apporter de nouveau sans qu'on soit destructif par rapport à notre environnement, quoi.
Ça, c'est un autre pélargonium qui, lui, a une odeur de citron. Dans les pélargoniums, il y a vraiment plein de variétés différentes. Il y a des variétés où on a des odeurs de pin, de camphre, de menthe, de pomme.
J'ai l'impression, à vous écouter, que vous explorez un nouveau monde, et ce nouveau monde est en plein inscrit dans l'ancien.
Inscrit dans l'ancien, certainement, parce qu'il y a énormément de choses qu'on a mis de côté parce que la société veut de la rentabilité en dehors de la cellule familiale. Donc on a été amené quelque part à laisser tomber tout ce savoir et même savoir-être que mes grands-parents possédaient encore, qu'on a mis de côté parce que c'était pas ce qui était demandé pour la société. Et je pense que tout le monde est en train de revenir à ça, même dans les écoles. Il y a de plus en plus de projets qui se font par rapport à, je ne vais pas dire retour en arrière, parce qu'il y a de ça, c'est recultiver les enseignements du passé, mais c'est aussi y introduire les nouvelles technologies comme les éoliennes, les panneaux solaires, le photovoltaïque. Il y a plein de choses qu'on est en train de découvrir. On sait maintenant qu'à partir de végétaux, on peut produire de l'électricité sans détruire le système, l'écosystème. Donc je pense qu'il faut allier les connaissances ancestrales, qui sont multiples aussi et qui peuvent s'adapter à différents environnements, et toute la technologie actuelle qui nous permet de partager et qui nous permet d'aller plus loin encore, quoi. Donc je ne dirais pas uniquement retour en arrière. Clairement, c'est une association du passé, du présent, pour aller vers le futur, de toute évidence, quoi. Pour un futur sain, quoi. Espérer.
Et Marie-Albert, où avez-vous appris votre métier ?
Eh bien, j'étais un peu à Jean Blou, donc en humanité. Et puis après, je crois que c'est comme beaucoup de plaisir. À ce moment-là, ça stimule la curiosité, la recherche. Et c'est la rencontre avec d'autres personnes. C'est les échanges. Voilà. C'est plus comme ça qu'on apprend.
Céline Robert, Mont-sur-Marchienne.
Près du musée de la photographie.
Oui, à 500 mètres du musée de la photographie. À 300 mètres de la sortie du R3, et à 3 km du centre-ville de Charleroi. Donc c'est une chance aussi d'avoir encore un petit coin de nature où on pourra faire découvrir ça aussi aux gens de la ville et aux gens qui n'ont pas la chance de posséder un jardin. Ou... Voilà, et peut-être développer justement des micro-jardins dans la ville et recréer un lien entre la nature et le côté urbain, quoi.
Voilà, ça c'est du cresson de Para, ça n'a pas vraiment une odeur. Quand on le cuit, on sent qu'il y a une sensation de fraîcheur comme on pourrait l'avoir avec de la menthe, sans être dans quelque chose de mentholé. Et puis ça stimule aussi très fort les glandes salivaires. Et donc ça fait une drôle de sensation, ça apporte quelque chose d'un peu pétillant. Et donc là ça va être vraiment un essai de faire ça, on va voir vraiment ce que ça va donner.
Donc vous dites, Catherine Tellier, un lieu de formation et pas d'expérimentation. Oui, Marie-Albert se dit pépiniériste.
Oui. Oui, mais elle est bien plus que ça.
Et quel est son plus, à vos yeux?
Ah, je crois que c'est avant tout quelqu'un de très humaniste, de très humain, qui aime transmettre les choses. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une ferme école chez elle. Quand on parlait de formation tout à l'heure, c'est bien plus que de la formation, c'est de la transmission. On transmet les savoir-être, les savoir-faire. Et ici, à l'horticulture, il y a un savoir, il y a des savoirs, savoir-être et savoir-faire en matière de transformer la graine et arriver à de la conserve pour l'hiver. Donc les apprenants de cette ferme école, de l'école paysanne indépendante, arrivent au printemps, au moment où on travaille la terre, on est en train de la préparer pour qu'elle accueille les graines et puis après les plants. Au fil des mois et des semaines, on va travailler cette terre et on va voir au quotidien quel est le travail de Marie. Marie qui est effectivement une pépiniériste, oui, c'est son boulot au quotidien, mais elle fait bien plus que ça. Après, elle sait comment on transforme les légumes, les récoltes, les plantes, etc. Et tout ça, elle transmet. Elle transmet, c'est la formation qu'elle propose.
Et elle dit qu'elle a étudié à Jean Blou durant ses humanités, et puis de là, l'expérience. Et elle dit que l'expérience est ce qui compte le plus dans le savoir de cette pratique. Et c'est pas l'étude, c'est pas l'érudition, mais c'est se confronter à la transmission de savoir-faire.
Là, c'est de la tagette lémonie. Voilà. J'ai pris aussi de la verveine citron, le porophyllum. Alors, la gastache. J'ai pris la gastache mexicaine parce que j'ai pris celle que je préférais. L'estragon. Et puis ici, le géranium rosa.
Le fait de mettre les pieds dans la terre et puis de suer tous les jours ou de sourire et de voir la graine qui se développe, qui s'ouvre, de voir les plantes qui se transforment, de participer à tout ça. On a beaucoup plus de respect pour la nourriture quand on voit comment elle évolue et quand on participe à sa production. Ne serait-ce qu'une laitue dans un bac sur une terrasse, quand on voit la merveilleuse transformation d'une graine en un légume qu'on va pouvoir manger avec beaucoup de saveur, avec beaucoup de plaisir, parce que justement, on l'a couvé pendant des semaines.
Ça, c'est la verveine citron.
Oh, c'est délicieux.
Je me disais, la verveine citron, tu vois qu'on parlait tantôt du gingembre. Bon, on n'aura pas le côté piquant, mais le côté piquant, on peut le rajouter avec un peu de piment ou de poivre. On peut même rajouter du poivre avec les poires. Et je me dis, là, on aurait le parfum citronné, quitte à rajouter même aussi, si on veut, du girofle et de la cannelle.
Le travail avec des plantes anciennes, en notant tout le côté péjoratif du mot ancien. Ancien parce que robuste, parce que reproductible, parce que résistant aux maladies et puis différent par rapport à toutes ces graines industrielles qui n'ont plus de goût, donnent des légumes
déjà aseptisé.
On va le faire chauffer un peu.
Ça laisse entrer.
Ah, on va dans un wok. Et puis nous mettrons le truc dedans. Hein.
Le rapport entre la permaculture et la philosophie.
Du moindre effort, de la plus grande intelligence, plus du respect aussi de la terre, de la nature. Le rapport avec la philosophie qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il y a une pensée qui est faite derrière et que les gens réfléchissent et mettent en action. Ensuite, la différence qu'il y aurait avec la philosophie, c'est que cette permaculture vient d'une connaissance que certaines personnes ont de la terre, du sol, de l'agriculture. Et donc, il y a vraiment un rapport aux pratiques qui est très, très, très fort. Donc, on est vraiment dans un système où on est à mi-chemin entre le savoir théorique et le savoir pratique, parce que les gens, ils se déplacent, ils vont suivre des stages vraiment où on leur apprend à manier la terre, à savoir utiliser de manière intelligente leur jardin. Mais j'ai remarqué que c'était souvent des gens qui, à côté de ça, se cultivaient beaucoup, lisaient beaucoup, se renseignaient. Et un dernier rapport avec la philosophie qu'on pourrait avoir, c'est que c'est vraiment un modèle d'échange où on discute les uns avec les autres et où on partage. Et donc, en réfléchissant ensemble, en se disant bah, « tiens, moi j'ai fait ça, tiens, moi j'ai fait ça », on construit en fait du savoir par l'échange. Donc pour moi, ce qu'il y aurait comme rapport entre la permaculture et la philosophie, mais encore, faudrait voir plus précisément ce que c'est que la permaculture, bien sûr.
Catherine Tellier, vous évoquiez la ferme école.
La ferme école, c'est une ferme en activité, une petite ferme paysanne sur laquelle on accueille des apprenants, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, qui sont des fils, filles d'agriculteurs ou déjà de paysans, ou qui sont des Nima, non issus du monde agricole.
C'est une pratique, c'est une posture aussi, et puis c'est une recherche du bien dans le jardin, mais du bien vivre, du bien par rapport, beaucoup de gens ont une réflexion globale par rapport à la planète, le réchauffement climatique, ces choses-là. Donc on est à la recherche d'un bien assez global, bien pour soi-même, bien pour le jardin, bien pour autrui aussi, de manière indirecte. C'est un horizon vers lequel, je pense, de plus en plus de gens vont essayer de tendre. Après, ça demande un investissement que pas tout le monde n'est capable de faire d'un point de vue simplement pratique, de pouvoir avoir un jardin, de pouvoir s'en occuper, etc. La posture de vouloir consommer de meilleure manière, de manière durable, je pense que cette posture, beaucoup de gens veulent l'avoir. Mine de rien, il faut pouvoir après se le permettre d'un point de vue financier. Et alors, cette posture de partage, d'échange et d'ouverture, c'est aussi une richesse vers laquelle pas mal de personnes essaient de retourner. Notamment parce qu'ils constatent effectivement que c'est un moyen de lutter aussi contre la certaine perte de culture qu'on peut avoir de nos jours avec la société mondialisée, etc. On perd un peu le rapport aux ancêtres, à leur manière de vivre. Et certaines personnes décident de y retourner pour réactiver cette histoire, réactiver cette mémoire. Donc c'est un horizon vers lequel effectivement les gens veulent tendre aussi.
Alors, l'idée, c'est de faire l'acte fermentation. L'acte fermentation, c'est le truc qu'on a tous en tête, c'est la choucroute.
Le principe de la ferme école, c'est d'accueillir sur une saison de culture complète, de mars, plus ou moins mars, le démarrage de la saison, comme chez Marie. Hein. Marie, c'était une ferme école. Jusqu'à l'arrière-saison, octobre, novembre, jusqu'au moment où on fait les réserves pour les hommes et pour les animaux, où les granges sont remplies et où les greniers Et les caves des hommes sont remplies aussi de conserves de toutes sortes. De viande séchée, de jambon qui pend au plafond, de fromage qui vont passer l'hiver tranquillement et s'affiner, de conserves de légumes, de fleurs séchées, de graines séchées, enfin de tout ce qu'on peut mettre de côté pour passer l'hiver tranquillement, y compris le bois.
Mais c'est plus magique que ça. Il y a... oui. Parce que la lactofermentation, ça touche plein de choses. Quand on fait du levain, le levain, c'est de la lactofermentation. Pour le pain, c'est la même chose.
C'est la transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Quand on dit savoir, c'est ce que le paysan a appris à l'école ou pas à l'école, de toute façon, il peut le transmettre. Ça s'est enrichi au fil de sa propre expérience. Et donc il va livrer, il va donner tout ce qu'il sait faire à ses apprenants. Ils sont de 6 à 10, 12 personnes. Il y a aussi le savoir-faire. Le savoir-faire, on a plus la notion de pratique technique. Donc, il va montrer comment on fait pour travailler le potager sans trop se faire mal au dos, par exemple. Comment on s'installe tranquillement pour traire une chèvre sans se casser aussi le dos ou sans que la chèvre soit trop stressée. Comment on fait pour traire une vache ? Il va l'aider à libérer son lait. Enfin, ça passe par toutes les pratiques agricoles et paysannes.
On se demande tous à un moment dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, pour les autres? Quelle est la place qu'on a dans cette société? Comment prendre cette place? Et une fois qu'on a défini quelle est la place qu'on voulait avoir, il faut se donner des moyens. Et les moyens ici, concrètement, on peut se les donner parce qu'on a des cours qui nous permettent d'apprendre et de mettre en place. Donc ça, c'est une première raison, je pense, pour y aller. Parce que, voilà, on arrête de se poser des questions, on entre dans l'apprentissage pour vraiment entrer dans cette mise en œuvre de nos ambitions en matière de vie en général. Après, me concernant, aussi, j'ai envie de continuer des recherches sur le sujet des plantes et sur la vraiment très personnel sur la symbolique des noms des choses à travers le temps. Et donc là, ça entre vraiment dans un projet qui est plus personnel. Et c'est une chance que ces deux-là se rencontrent, ces deux projets se rencontrent.
Paysanne, on y tient vraiment beaucoup. La ferme école, ça doit être une ferme paysanne, c'est-à-dire qu'elle doit travailler sur les grands axes de l'agroécologie. Et là, on touche au savoir-être. Savoir-être, c'est autre chose que pratiquer, c'est autre chose que transmettre des savoirs agronomiques, c'est être.
Les concombres, la façon dont les Russes, les Polonais conservent les cornichons, c'est aussi en lactofermentation. Et on se rend compte que de par le monde, il y a vraiment plein de choses en lactofermentation. Ça va des préparations qui sont des grosses préparations comme on peut faire pour le chou, avec des petites préparations qui sont plutôt des condiments à ce moment-là, qui sont les kimchi des Asiatiques. Et donc là, on peut être avec des choses qui sont plus piquantes, et où on a des bases qui sont plus épaisses parce qu'on mélange même de la farine dedans pour avoir justement de la consistance. Alors moi, ce que j'adore dans cette idée de lactofermentation, c'est qu'au niveau matériel, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'un pot.
Il
Je veux faire de la philosophie, donc je veux construire une pensée avec mes élèves qui est cohérente, qui est structurée et vers laquelle on ne sait pas forcément où on va, qu'on construit tous ensemble. C'est pour ça que je veux distinguer la philosophie de l'histoire de la philosophie, parce qu'on peut faire de l'histoire de la philosophie sans philosopher. Voilà. Et je n'enseigne pas ça en philosophie, j'enseigne la philosophie, enfin si d'une certaine manière, on peut y arriver, parce que je fais de la philosophie du langage, la définition de l'humanité, et donc concrètement, une fois qu'on s'est défini en tant qu'homme, quelles sont les responsabilités que cela engendre dans nos actions. Et alors si on fait de l'éthique, ici effectivement on est dans une mise en place d'une certaine forme d'éthique.
On a besoin d'un pot.
Caroline. De Pascal.
D'un pot, d'une planche et de quelque chose pour poser sur la planche pour qu'elle presse sur la matière. Ou bien, on va le voir avec les Powek, ça fonctionne très bien aussi. On n'a pas besoin de chaleur. Et l'idée, c'est que ça va être une fermentation qui va se faire. Et cette fermentation va permettre à la fois de conserver les aliments, mais aussi d'amener des éléments nutritifs plus importants et une digestibilité aussi plus facile. Donc c'est que du bénéfice. Et puis on est déjà dans une préparation aussi et on sait que ça va aller, ça va apporter un plus. C'est pas, il y a quelque chose, c'est comme d'avoir une grappe de raisin et puis d'en faire du vin, quoi. On est avec deux choses différentes. Il y a la grappe de raisin, il y a le vin, c'est deux choses différentes, mais on sent que on a maîtrisé quelque chose pour arriver à sublimer en fait ce produit de base. C'est tout ça aussi par rapport à la choucroute, c'est d'arriver à maîtriser cette fermentation. Et là, je ne suis pas maître en choucroute. Je ne maîtrise pas encore toute la fermentation, pas encore, j'espère un jour maîtriser beaucoup mieux, mais je crois que c'est à force des rencontres et des expériences, parce qu'il y a toujours ce phénomène de température qui intervient, qui est là et qui n'est pas facile à maîtriser.
Est-ce que tu peux expliquer un peu mieux? Tu dis on n'a pas besoin de chaleur, mais ça veut dire que ton pot doit rester au frais?
Je vais expliquer le processus, tu vois. Je veux dire, on n'a pas besoin d'un feu pour faire tout ça. Donc l'idée, c'est, par exemple, on va partir de l'idée de la choucroute, c'est le plus facile.
Être paysan, c'est quoi? C'est avoir une réflexion sur le monde, sur ce qu'il devient aujourd'hui, sur ce qu'il a moyen de faire, chacun à sa petite mesure, comme les colibris, par exemple. Voilà, ça c'est la ferme-école. Cette ferme-école, elle rejoint des formations qui sont beaucoup plus ponctuelles.
Mais, j'interromps, Catherine Tellier a rencontré celles qui apprennent chez Marie-Albert un dénominateur commun, un mot qui est dit par toutes, plus ou moins dans ce sens, c'est autonomie.
Oui, on va prendre un chou qui peut, habituellement on est avec des choux blancs, mais rien n'empêche de le faire avec du chou rouge, de le faire avec des choux frisés. On peut prendre ce qu'on veut comme chou. Nous on va le râper, mais rien n'empêche de faire une choucroute avec des choux qui sont entiers aussi. À ce moment-là, il faut des gros tonneaux, enfin voilà, il faut des choses. Donc, on va râper ce chou, on va mélanger ça avec un peu de sel. Un peu de sel, ça veut dire que c'est 10 grammes de sel par kilo. Pourquoi du sel? Pour conserver l'aliment le temps que la fermentation se lance. Et puis, ça sert aussi d'épice.
La première chose, c'est d'arriver à l'autonomie. Que ce soit en vue d'une installation professionnelle, je dirais, ou simplement en vue d'être autonome chez soi, sur son petit potager, et tant en matière énergétique, alimentaire qu'intellectuelle. On rejoint toujours les mêmes choses, c'est la souveraineté alimentaire, c'est aider les gens à se prendre en main, de préférence pas tout seul. De préférence arriver à sa propre autonomie alimentaire et puis produire un peu plus pour alimenter le voisin ou la collectivité. Oui, c'est vrai, c'est l'autonomie qui est un commun dénominateur.
Donc on aura râpé le chou, on va le tasser on commence par des petites quantités qu'on tasse dans le fond du pot jusqu'à ce qu'on ait du jus. Parce que l'idée, c'est en fait de faire des fermentations qui sont anaérobies, donc on n'aura pas d'air. Donc d'où l'idée de bien tasser. On rajoute des condiments et on va y aller par couches successives, comme ça, toujours en tassant comme il faut. En fait, comme on voit pour faire les silos pour les animaux, où on voit qu'ils sont en train de faucher les maïs, ils mettent ça en couche, hop, le tracteur qui passe, et chaque fois, ça tasse. En fait, c'est cette fermentation. Ils sont en train de faire une choucroute avec du maïs ou avec de l'herbe. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est ça qu'on va faire. On va tasser les végétaux. On va essayer d'avoir du jus ou le jus du végétal parce qu'on l'aura bien tassé et donc ça va faire un jus qui va arriver au-dessus. Ou bien quand on n'a pas le jus, à ce moment-là, on travaille avec une saumure.
C'était pays, paysage, paysan, au lieu dit l'horticulture, enregistré en septembre 2015 chez Marie-Albert dans le cadre de permaculture en travaux d'automne et conserve à l'appui. Avec Marie-Albert, Dominique Demès, Céline Robert, Catherine Tellier, et Caroline de Pascal. Pays, paysage, paysan. Permaculture en travaux d'automne et conserve à l'appui par Thierry Genicot.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.